Partie 1. Compréhension orale. Cette partie du test comprend 3 sous-parties. Vous allez écouter 3 enregistrements. Vous écouterez chaque enregistrement 2 fois. Pendant l'écoute, répondez aux questions sur la feuille qui correspond. Suivez les instructions pour savoir quelle feuille vous devez remplir. Maintenant, vous prenez la feuille marquée d'une petite croix. Première sous-partie. Ingénieur. Il veut devenir pâtissier. Écoutez l'interview qu'un monsieur accorde au magazine Télé-Loisirs. Pour les questions suivantes, de 1 à 7, choisissez la bonne réponse A, B, C ou D. À chaque fois, une seule réponse est correcte. Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d'une petite croix. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire les questions de 1 à 7. Maintenant, écoutez le premier enregistrement.
Lucas Dupont, bonjour. Votre parcours professionnel est tout à fait particulier. Pourquoi ?
J'ai obtenu un diplôme d'ingénieur à l'école centrale. Avec ce type de diplôme, je n'ai eu aucun problème à trouver un poste de manager dans les industries automobiles et navales. Cependant, après une longue réflexion, j'ai dit stop à mon emploi et j'ai entrepris une formation de pâtissier.
Qu'est-ce qui a motivé votre choix ?
Au bout de 5 ans de carrière, j'en ai eu assez. En effet, l'ingénierie ne me plaisait pas. J'ai su que le bricolage et la mécanique n'avaient jamais été mon truc. Aujourd'hui, je me demande ce qui m'avait poussé, après le bac, à choisir une grande école où les études n'étaient pas faciles. Peut-être une opportunité de bien gagner ma vie. Avec le temps, je me suis rendu compte que l'argent ne faisait pas mon bonheur. Je rêvais d'une profession orientée sur l'hospitalité et autour de mon principal plaisir, la nourriture. Le métier de pâtissier s'est imposé naturellement car j'aime le sucré. À la maison, je préparais déjà des gâteaux et des brioches pour le goûter.
À 33 ans, vous avez donc repris le chemin de l'école.
C'est vrai. Et j'avoue que cela a été déstabilisant malgré ma motivation. J'ai changé à la fois de mode de vie et de niveau de vie. Pendant la semaine, je suivais les cours avec mes camarades qui avaient 17 ans de moins que moi et je logeais dans une chambre d'étudiants. Pendant le week-end, je rentrais retrouver ma famille.
Vous dites que le certificat d'aptitude professionnelle, qui est le diplôme des artisans et des ouvriers qualifiés, a une mauvaise réputation.
Oui, la nouvelle formation que j'ai commencée est véritablement dévalorisée. Ce sont les mauvais élèves que l'on dirige vers l'apprentissage. À travers mon témoignage, je veux défendre les métiers manuels et dire aux gens que l'on prend du plaisir à les exercer.
Où en êtes-vous aujourd'hui ?
J'ai passé les examens pratiques. Maintenant, c'est la théorie qui m'attend, et puis un stage dans une pâtisserie. Il faut que je fasse mes preuves. Mon objectif, d'ici 2 à 3 ans, est de travailler dans ma propre boutique.
Depuis que vous avez changé de vie, le regard des autres a-t-il changé ?
Très franchement, je n'y fais pas attention. Mais mon épouse, elle, est fière de moi. Elle trouve que j'ai eu bien du courage. Pour moi, c'est le principal. Son soutien et son encouragement m'aident à avancer et à relever d'autres défis.
Maintenant, écoutez le premier enregistrement encore une fois.
Lucas Dupont, bonjour. Votre parcours professionnel est tout à fait particulier. Pourquoi ?
J'ai obtenu un diplôme d'ingénieur à l'école centrale. Avec ce type de diplôme, je n'ai eu aucun problème à trouver un poste de manager dans les industries automobiles et navales. Cependant, après une longue réflexion, j'ai dit stop à mon emploi et j'ai entrepris une formation de pâtissier.
Qu'est-ce qui a motivé votre choix ?
Au bout de 5 ans de carrière, j'en ai eu assez. En effet, l'ingénierie ne me plaisait pas. J'ai su que le bricolage et la mécanique n'avaient jamais été mon truc. Aujourd'hui, je me demande ce qui m'avait poussé, après le bac, à choisir une grande école où les études n'étaient pas faciles. Peut-être une opportunité de bien gagner ma vie. Avec le temps, je me suis rendu compte que l'argent ne faisait pas mon bonheur. Je rêvais d'une profession orientée sur l'hospitalité et autour de mon principal plaisir, la nourriture. Le métier de pâtissier s'est imposé naturellement car j'aime le sucré. À la maison, je préparais déjà des gâteaux et des brioches pour le goûter.
À 33 ans, vous avez donc repris le chemin de l'école.
C'est vrai. Et j'avoue que cela a été déstabilisant malgré ma motivation. J'ai changé à la fois de mode de vie et de niveau de vie. Pendant la semaine, je suivais les cours avec mes camarades qui avaient 17 ans de moins que moi et je logeais dans une chambre d'étudiants. Pendant le week-end, je rentrais retrouver ma famille.
Vous dites que le certificat d'aptitude professionnelle, qui est le diplôme des artisans et des ouvriers qualifiés, a une mauvaise réputation.
Oui, la nouvelle formation que j'ai commencée est véritablement dévalorisée. Ce sont les mauvais élèves que l'on dirige vers l'apprentissage. À travers mon témoignage, je veux défendre les métiers manuels et dire aux gens que l'on prend du plaisir à les exercer.
Où en êtes-vous aujourd'hui ?
J'ai passé les examens pratiques. Maintenant, c'est la théorie qui m'attend, et puis un stage dans une pâtisserie. Il faut que je fasse mes preuves. Mon objectif, d'ici 2 à 3 ans, est de travailler dans ma propre boutique.
Depuis que vous avez changé de vie, le regard des autres a-t-il changé ?
Très franchement, je n'y fais pas attention. Mais mon épouse, elle, est fière de moi. Elle trouve que j'ai eu bien du courage. Pour moi, c'est le principal. Son soutien et son encouragement m'aident à avancer et à relever d'autres défis.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Deuxième sous-partie. 3 conversations par an. Écoutez le témoignage de Bruno Legrand qui répond aux questions d'une rédactrice du Figaro Madame. Pour les phrases de 8 à 13, dites si c'est vrai, A, faux, B, ou si ce n'est pas dit dans le texte, C. Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d'une petite croix. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire les phrases de 8 à 13. Maintenant, écoutez le deuxième enregistrement. Bruno Legrand, bonjour. Vous travaillez dans une des 26 associations qui viennent de constater en France un gros problème social, la solitude et l'isolement dont beaucoup de personnes souffrent.
Bonjour. C'est vrai, et ce problème prend toujours plus d'ampleur.
Alors, qui sont ces Français qui n'ont que 3 véritables conversations annuelles? Vous dites qu'ils sont déjà 4 millions.
Selon ce que l'on observe sur le terrain, ce sont plutôt des personnes entre 30 et 50 ans que rien ne prédisposait à cette situation. Des femmes abandonnées par leurs compagnons, des hommes veufs ou des gens au chômage. On peut aussi ajouter les jeunes retraités pour qui leur activité professionnelle a été le seul lien avec les autres. On retrouve ces personnes aussi bien à la ville qu'à la campagne.
Comment expliquer un tel chiffre? Par l'arrivée de divertissements plus individualistes?
Oui, en partie. Dans les campagnes, par exemple, la télé a remplacé les soirées traditionnelles et les agriculteurs sont de plus en plus isolés. Par conséquent, les cas de suicide dans cette catégorie de la population sont de plus en plus nombreux. Quant à l'ordinateur, il peut permettre aux petits-enfants de correspondre davantage avec leurs grands-parents. Mais cette communication est un peu limitée. Les jeunes ne cherchent plus vraiment à leur rendre visite pour avoir de leurs nouvelles.
Alors, quelles sont les solutions?
Puisque ces gens ne sont plus en relation avec le monde extérieur, ils ont l'impression de ne pas être intéressants et ne cherchent plus à contacter leurs proches ou leurs amis. Il faut donc créer des structures afin de rompre cet isolement. Dans la Drôme, par exemple, des cafés ponctuels s'organisent. Ce sont des lieux où l'on prépare des rencontres amicales pour des personnes isolées. Des bénévoles proposent des activités comme des promenades en forêt, des soirées littéraires et autres. Ainsi, ils poussent les personnes les plus isolées à se réunir. Et ça fonctionne. Un geste, un regard, un sourire, c'est tellement important pour les humains.
Maintenant, écoutez le deuxième enregistrement encore une fois. Bruno Legrand, bonjour. Vous travaillez dans une des 26 associations qui viennent de constater en France un gros problème social, la solitude et l'isolement dont beaucoup de personnes souffrent.
Bonjour. C'est vrai, et ce problème prend toujours plus d'ampleur.
Alors, qui sont ces Français qui n'ont que 3 véritables conversations annuelles? Vous dites qu'ils sont déjà 4 millions.
Selon ce que l'on observe sur le terrain, ce sont plutôt des personnes entre 30 et 50 ans que rien ne prédisposait à cette situation. Des femmes abandonnées par leurs compagnons, des hommes veufs ou des gens au chômage. On peut aussi ajouter les jeunes retraités pour qui leur activité professionnelle a été le seul lien avec les autres. On retrouve ces personnes aussi bien à la ville qu'à la campagne.
Comment expliquer un tel chiffre? Par l'arrivée de divertissements plus individualistes?
Oui, en partie. Dans les campagnes, par exemple, la télé a remplacé les soirées traditionnelles et les agriculteurs sont de plus en plus isolés. Par conséquent, les cas de suicide dans cette catégorie de la population sont de plus en plus nombreux. Quant à l'ordinateur, il peut permettre aux petits-enfants de correspondre davantage avec leurs grands-parents. Mais cette communication est un peu limitée. Les jeunes ne cherchent plus vraiment à leur rendre visite pour avoir de leurs nouvelles.
Alors, quelles sont les solutions?
Puisque ces gens ne sont plus en relation avec le monde extérieur, ils ont l'impression de ne pas être intéressants et ne cherchent plus à contacter leurs proches ou leurs amis. Il faut donc créer des structures afin de rompre cet isolement. Dans la Drôme, par exemple, des cafés ponctuels s'organisent. Ce sont des lieux où l'on prépare des rencontres amicales pour des personnes isolées. Des bénévoles proposent des activités comme des promenades en forêt, des soirées littéraires et autres. Ainsi, ils poussent les personnes les plus isolées à se réunir. Et ça fonctionne. Un geste, un regard, un sourire, c'est tellement important pour les humains.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Troisième sous-partie. Les promesses de la domotique dans l'habitat du futur. Écoutez cette présentation intéressante qui parle d'une nouvelle technologie appelée la domotique. Pour les espaces de 14 à 20, complétez le texte qui la résume. À chaque fois, vous devez utiliser un seul mot pour compléter le résumé. Écrivez vos réponses sur la feuille marquée d'un stylo. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire le texte. Maintenant, écoutez le troisième enregistrement.
La domotique servira aux habitants de la maison du futur à améliorer leur quotidien. C'est elle qui s'occupera automatiquement de leur confort, de leur sécurité et de leurs économies d'énergie. Elle le fera discrètement et avec responsabilité. Imaginez, il est 8 heures du matin et depuis quelques minutes déjà, le sèche-serviette s'est déclenché dans la salle de bain et la cafetière s'est mise en marche dans la cuisine. Au moment où la radio s'allume, les volets roulants se lèvent dans toutes les pièces de la maison. À 10 heures, quand les habitants viennent de sortir, le chauffage s'éteint. Il se rallumera une demi-heure avant leur retour, vers 18 heures. Dans la journée, la machine à laver démarre aux heures où les tarifs sont les plus bas, tandis que les stores jouent avec le soleil pour optimiser l'entrée de la chaleur. Le soir, la lumière des lampes diminue pour créer une ambiance favorable à une soirée cinéma. C'est juste au moment où un membre de la famille allume l'écran de télévision. À 23 heures, l'alarme de l'entrée se déclenche. Tous les appareils en veille s'arrêtent. À la moindre fuite d'eau ou de gaz, le système est prêt à couper l'alimentation. À 1 heure du matin, quand une personne se lève pour boire un verre d'eau, un chemin lumineux s'éclaire automatiquement. Ceci n'est pas une maison sortie tout droit de l'imagination d'un architecte. De nos jours, ces systèmes automatiques sont proposés au grand public. Ils remplacent, petit à petit, les traditionnels interrupteurs et les boutons des appareils qu'il faut manipuler. Ainsi, ils assurent à répétition le rôle d'un véritable cerveau domestique.
Maintenant, écoutez le troisième enregistrement encore une fois.
La domotique servira aux habitants de la maison du futur à améliorer leur quotidien. C'est elle qui s'occupera automatiquement de leur confort, de leur sécurité et de leurs économies d'énergie. elle le fera discrètement et avec responsabilité. Imaginez, il est 8h du matin et depuis quelques minutes déjà, le sèche-serviette s'est déclenché dans la salle de bain et la cafetière s'est mise en marche dans la cuisine. Au moment où la radio s'allume, les volets roulants se lèvent dans toutes les pièces de la maison. À 10h, quand les habitants viennent de sortir, le chauffage s'éteint. Il se rallumera une demi-heure avant leur retour, vers 18h. Dans la journée, la machine à laver démarre aux heures où les tarifs sont les plus bas, tandis que les stores jouent avec le soleil pour optimiser l'entrée de la chaleur. Le soir, la lumière des lampes diminue pour créer une ambiance favorable à une soirée cinéma. C'est juste au moment où un membre de la famille allume l'écran de télévision. À 23h, l'alarme de l'entrée se déclenche. Tous les appareils en veille s'arrêtent. À la moindre fuite d'eau ou de gaz, le système est prêt à couper l'alimentation. À 1h du matin, quand une personne se lève pour boire un verre d'eau, un chemin lumineux s'éclaire automatiquement. Ceci n'est pas une maison sortie tout droit de l'imagination d'un architecte. De nos jours, ces systèmes automatiques sont proposés au grand public. Ils remplacent, petit à petit, les traditionnels interrupteurs et les boutons des appareils qu'il faut manipuler. Ainsi, ils assurent à répétition le rôle d'un véritable cerveau domestique.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Terminez le travail sur cette partie du test. Fin de la première partie. Le test continue à la page suivante.